Augustin Giovannoni, philosophe et enseignant à Marseille.
Oui. Merci Alexis. Alors, j'ai eu conscience en abordant un tel sujet de me heurter à une difficulté, voire à une impossibilité, à savoir, peut-on rendre compte des communautés d'exil à l'âge du capitalisme absolu et répondre à la question posée à l'occasion de cette rencontre, la place de l'étranger, à partir de catégories appartenant à la tradition métaphysique et qui ont drainé avec elles l'essentiel de la problématique de l'altérité personnelle, celle-là même qui englobe l'autrui, le prochain, le semblable, le familier, le proche. Alors aborder en termes politiques la question de l'étranger est une des façons de négocier avec cette impossibilité, mais pour que cette négociation ait quelque chance d'aboutir, elle doit s'accompagner d'une nouvelle grammaire, une grammaire de l'exil, et c'est un petit peu cette circulation des concepts, avec la mise en lumière en particulier de la catégorie d'exil, qui va structurer ma brève présentation. Donc je souhaiterais faire quelques remarques assez simples, enfin, qui sont des ébauches plus que des analyses, qui renvoient à une approche dynamique de la notion d'exil à l'encontre de toute définition prescriptive. Alors la première concerne la condition d'exil. Je l'énoncerai sous la forme d'une thèse. Ce qui nous précède, ce n'est pas l'origine, mais l'hétérogénéité et la pluralité. Il s'agit donc, quand on étudie l'exil, de prendre en compte la relation et l'être avec, et par conséquent de rompre avec une logique de l'identité qui est une pensée du même,
qui refuse l'altérité, et de la soustraction, le restreint entre soi. La pensée de l'exil dans laquelle l'autre est impliqué est donc une pensée de l'existence comme co-existence. Il faut même aller plus loin et procéder à une déconstruction du terme même de communauté qui a trop de références religieuses et surtout trop de résonances invinciblement pleines, et suivre peut-être les analyses de Jean-Luc Nancy qui soulignent que l'avec est neutre et presque indiscernable du co de la communauté. Et enfin, et ce point est à souligner, l'avec porte en lui un écart au cœur même de la proximité. Alors la deuxième remarque consiste à faire de l'exil une catégorie politique de portée universelle et signifiante. Alors j'ai tenté pour ma part, je sais qu'il y a d'autres approches, par exemple, vous pourrez le faire à partir de l'œuvre de Bergson, comme vous l'avez fait. Bon, j'ai tenté pour ma part de le faire en m'inspirant de la tentative élaborée par Spinoza dans l'éthique, tentative qui est fondamentalement le procès de connaissance permettant la construction d'une forme de vie capable de résister aux variations destructrices et aux passions tristes à partir de la compréhension des relations causales qui existent entre tous les individus et qui, dans le traité théologico-politique, débouche sur la possibilité, disons, d'affranchir la communauté politique d'une forme spécifique de foi religieuse. Alors quel est l'enjeu? Renforcer le corps politique sur les libres contributions de chacun à la reconnaissance de l'utilité commune. J'entends donc par politique de l'exil non pas seulement un mode de gouvernement, mais une configuration opposant pouvoir et puissance, la puissance étant entendue comme l'impulsion orientée de la vie, une persévération, une création. Donc il faut, pour penser l'exil, et ce sera ma troisième remarque, rompre avec l'historicisme et suivre en cela le point de vue adopté par Walter Benjamin dans le livre des passages et les thèses sur le concept histoire dont Enzo Traverso a fait récemment une analyse convaincante dans Mélancolie de gauche. Il s'agit, pour mettre en lumière les épreuves de l'exil, de travailler à l'intérieur des contradictions du présent, de les traverser pour ranimer le passé, et cette réaction, nous dit-il, est une ressouvenance ou une remémoration et se réclame d'une approche qui soutient que ce souvenir peut avoir une fonction salvatrice. Le but n'est pas de modifier ce qui est advenu, cela veut dire tout simplement changer le présent. Autrement dit, pour sauver le passé, il faut donner une nouvelle vie aux espérances de ceux qui ont été vaincus, donc réactualiser les attentes inassouvies des générations qui nous ont précédés. Donc on pourrait dire que penser l'exil repose sur l'idée d'une temporalité ouverte, où le passé ne quitte jamais le présent, les deux ne pouvant être séparés. Et quatrième et dernière remarque, il faut prendre garde de ne pas confondre
l'altérité impersonnelle du « on » avec la personne d'autrui qui constitue proprement l'altérité positive. Il faut en cela rester fidèle à l'héritage de Lévinas qui commente ainsi le dénuement de l'autre. L'exilé surgit dans mon champ sous les espèces de l'absolue pauvreté. Il n'est que sa demande et mon obligation. Et l'obligation se caractérise par son immédiateté. Elle réside dans l'accueil de l'étranger. Responsabilité obsédante, responsabilité qui est une obsession, car l'étranger m'assiège au point qu'il met en question mon pour moi, mon en soi, qu'il me fait otage. Alors j'ai choisi pour illustrer ces quelques esquisses pourraient être problématisées, qu'on abordera sans doute dans la discussion, un nouage et un fil conducteur. Ce nouage, c'est le commun, l'être en commun, ce qu'on appelle, comme je l'ai indiqué dans la première remarque, être avec, être ensemble. Donc il s'agit de tenir à distance le piège identitaire et les logiques inégalitaires en esquissant ce que pourrait être une éthico-cosmopolitique. Il faut entendre par là que ni les uns ni les autres ne sont premiers, mais seulement l'avec par lequel il y a les uns et des autres. On découvre alors que ce qui est premier et nous définit, c'est bien la pluralité, non pas l'addition des moi-substances. Alors, ça me paraît particulièrement important parce que si on croise en fait cette analyse qui est là aussi inspirée par Jean-Luc Nancy et ce que j'ai dit sur Spinoza, on voit bien que ce qui est aujourd'hui en cause dans la crise que nous traversons, c'est l'oubli de l'interdépendance et la dynamique qu'elle suppose. Alors, je crois qu'il résulte de ces quelques remarques une redéfinition, elle est en cours, c'est celle du concept universel. Je vous renvoie aux travaux actuels d'Étienne Balibar, à l'idée que, nous dit-il, l'universel ne rassemble pas mais divise. Alors pour aller vite, on peut dire qu'étudier l'exil, c'est montrer que l'universalisme s'inscrit toujours dans un lieu, des conditions d'existence et une situation d'énonciation spécifique. Je cite Balibar, il hérite en ce sens des grandes inventions intellectuelles, par exemple les monothéismes abrahamiques, la notion révolutionnaire des droits de l'homme et du citoyen, qui font de notre culture démocratique le multiculturalisme en tant que généralisation d'un certain cosmopolitisme, etc. Donc le problème, car le problème existe, est que les universalismes sont concurrents, de cette sorte que ça n'a pas de sens de parler d'un universalisme absolu, comme certains le prétendent. Alors, le danger peut devenir mortel quand l'exclusion pénètre dans l'universel, à la fois par le biais de la communauté et par celui de la normalité, le racisme apportant un degré de conflictualité supplémentaire. D'où, si on suit les analyses de Balibar, la nécessité de faire émerger l'inscription du refoulé colonial au cœur de la citoyenneté, refoulé qui ne cesse de faire retour à la faveur des conflits de la mondialisation. Quant au fil conducteur, je ne pourrais que l'esquisser. L'idée consiste à prendre en compte, je reprends ton titre, la condition des exilés. Cela signifie qu'il y a de l'existence dans tout espace et quelle que soit la situation donnée. Le droit pour un être de se sentir justifié d'exister comme il existe et le désire. Alors, la question posée, qui est aujourd'hui l'objet d'une bataille conceptuelle, est donc claire. La pensée politique moderne, semble-t-il, doit réexaminer ses fondations et ses configurations, mais, et c'est bien là tout le problème, elle semble s'y refuser. Ce refus révèle par là même un déni de réalité, celui de savoir comment les sociétés occidentales peuvent accueillir l'expérience de la dispersion et de l'étranger. Alors, finalement, il faudrait, pour y parvenir, interroger collectivement un système politique où aucune nationalité ou religion ne pourrait revendiquer la souveraineté sur une autre et où en fait la souveraineté serait elle-même dispersée. Ce qui signifierait que penser l'exil aujourd'hui consisterait à défendre des formes transnationales de citoyenneté et développer une politique de traduction. Bon, André Tauzet, Barbara Cassin ont posé des jalons intéressants sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir, entre les cultures valorisant des processus d'appartenance multiples. Alors, le problème est de savoir ce que recouvre cette expression. Alors oui, je termine en disant que intégrer l'exil dans une pensée politique aujourd'hui, c'est suggérer une politique hors sol non définie territorialement. Mais que recouvre cette expression ? Eh bien, si vous voulez, cela consisterait à allouer aux étrangers des droits, non seulement civiques et sociaux, mais surtout des droits politiques. Et la difficulté tient à ce que les droits politiques que l'on pourrait leur attribuer ne dériveraient pas de l'appartenance à un État-nation, mais finalement supposeraient d'élaborer collectivement l'exercice d'une citoyenneté démocratique post-nationale. Alors, ma conclusion, elle sera un peu aporétique. J'exposerai rapidement une antinomie dans laquelle nous sommes aujourd'hui pris. Alors, pour la première partie, qui pose le problème de la politique hors sol de manière aiguë, la thèse habermasienne consisterait la thèse, c'est-à-dire qu'on ne peut dépasser les limites de l'État-nation que dans l'horizon d'une politique des droits de l'homme ou de la condition humaine. Pour cela, il conviendrait, et c'est toute la difficulté de cette politique hors sol, de débloquer un verrou qui empêche sa mise en œuvre et qui a été clairement identifié par Jürgen Habermas, c'est-à-dire découpler la souveraineté du peuple de la souveraineté étatique, mais donc un tel découplage déboucherait sur une conception transnationale de la souveraineté populaire, notamment au niveau européen. L'antithèse, elle est arendtienne, c'est que l'universalité des droits de l'homme n'est pensable que dans l'horizon de l'État-nation. L'homme ne peut pas être dans sa unité sujet de droit, aussi peu que citoyen du monde. L'homme nu n'est pas un concept juridique, mais une exception à la norme du droit qui déborde la possibilité d'une action politique en faveur des droits de l'homme. Alors, il y a des esquisses de solutions que je me contenterai de signaler brièvement. D'abord celle élaborée, bon, il vient de mourir, je pense, c'est élaborée par Miguel Abensur, c'est qu'une politique hors sol signifie que la venue à soi de la démocratie ne peut s'effectuer que dans un procès de dépérissement de l'État. Il emploie une expression que je trouve vraiment forte, qui est celle de démocratie insurgente, qui pour lui est le vrai nom de la démocratie, c'est-à-dire qu'il nous indique par là que la démocratie a pour cible l'insurrection permanente contre la forme unificatrice, intégratrice et organisatrice de l'État. Il préfère à l'expression « le citoyen contre les pouvoirs » l'expression de « démocratie contre l'État ». Et une autre approche, revenir sur ce qui a conduit Jacques Derrida à risquer une hypothèse, celle d'une déconstruction prudente de la logique souverainiste et du concept dominant classique de souveraineté État-nationale, celui qui sert de référence à Carl Schmitt, tout en veillant à ne pas aboutir à une dépolitisation du corps social, mais au contraire en posant un autre concept du politique, ce que j'ai appelé une éthique cosmopolitique, c'est-à-dire une politique selon le schéma de l'hospitalité transnationale ou universelle, au cœur d'un chiasme entre fraternité, humanité et hospitalité. Alors, c'est vrai que pour affronter ces défis, il conviendrait d'effectuer toute une série de renversements et engager un travail collectif, comme celui que tu es en train de mettre en place avec un certain nombre de tes collègues. Et donc, je crois que parmi ces grandes lignes thématiques, il faudrait citer, bon, subvertir la notion d'identité, déconstruire les catégories du même et de l'autre qui nous hantent depuis le platonisme, sortir des apories de l'individualisme dans lesquels nos sociétés sont enfermées, et continuer à travailler comme le font certains avec beaucoup, je crois, de force, il faut leur rendre cet hommage, continuer à travailler les notions de commun et d'universalité pour les déconstruire et caler à une forme indéconstructible qui nous permettra finalement d'être fidèles à l'expérience que révèle la figure de l'étranger, mais aussi la question de l'exil à laquelle nous sommes aujourd'hui, comme un coup de poing, tous concernés. Voilà. J'essaie d'aller très vite.